arriver à la décroissance.
Bu de l'alcool et fumé du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
C'est la plus belle.
Et à toutes, bienvenue, vous êtes à l'écoute de Radio Canu, c'est l'heure du Canu Info, nous sommes le jeudi 5 novembre 2020 et nous allons vous parler ce soir de terrorisme et d'Avignon, de mobilisation dans l'éducation, on parlera un petit peu d'économie avec Engie et Carrefour. On parlera de Borat qui dérange, et puis on parlera des patrons et de l'État qui attaquent nos droits. Et puis on dira peut-être un petit mot pour rigoler de Framasoft.
C'est donc moi qui commence avec... on va revenir sur ce qui s'est passé à Avignon il y a une semaine. Vous vous rappelez, c'était un jeudi dans le quartier de Montfavet, à 2 km du centre-ville d'Avignon, un homme aurait menacé, enfin a menacé des gens dans la rue avec une arme de poing. Quelqu'un appelle la police arrive, l'individu se retourne contre les flics et les menace, et il s'avance sur eux et du coup il lui tire dessus. Ça c'est ce qui s'est passé. On va en savoir un peu plus, c'est de la manipulation notamment qu'il y a derrière. Alors tout de suite, le procureur de la République Philippe Guémas annonce, je cite, ce n'est pas un acte terroriste car on a pu établir son identité, c'est un Français né en France âgé de 33 ans qui n'a rien à voir avec la religion musulmane. Voilà la phrase qu'il a dit. Donc il laisse entendre en fait que tout acte, toute attaque, toute agression, tout attentat, il n'est terroriste que si la personne qui le fait est de confession musulmane. Donc c'est un vrai propos discriminatoire qui l'annonce tel quel, comme ça, le procureur de la République, Philippe Guémas. Alors après, on va apprendre plein de choses, que l'homme abattu portait une veste bleue siglée du logo Defend Europe. Vous savez, ce groupuscule, enfin, c'est le stabi fait par le groupuscule d'extrême droite Génération Identitaire, de triste mémoire, hein, notamment pour les Lyonnais, ceux qui sont aussi entre la France et l'Italie, voilà, où il y a eu pas mal d'actions des identitaires, à Paris aussi. Alors ensuite, autre point presse, le procureur indique qu'un témoin aurait fait un état d'un geste pouvant ressembler à un salut nazi. Donc ça, c'était, ça avance un petit peu. Par contre, tout de suite, il est au courant de ça, il est au courant de la veste. Il ne cite jamais la mouvance identitaire dans ce point de presse-là. Il y a quand même un truc louche qui se profile. Donc le procureur... Et donc l'État, puisque c'est le procureur de l'État, ils sont coincés par un double tabou sur cette affaire, révéler que le terroriste est un militant d'extrême droite et assumer, officialiser que la mouvance d'extrême droite fait aussi des attentats terroristes, avec tout ce que ça entend derrière, c'est-à-dire la pression de la population, la terreur, la peur, ce qu'on vit à Lyon avec toutes les attaques de l'extrême droite, par exemple, qui ont lieu assez régulièrement. Donc voilà. Aujourd'hui, ce jeudi, sort une interview de la personne en fait qui a été visée par l'attaque de ce terroriste d'extrême droite. Alors, on en sait plus sur lui. On connaît pas son nom parce qu'il veut pas donner son nom, mais c'est un chef d'entreprise d'Avignon qui a 29 ans, dont la famille est originaire du Maghreb. Donc, ce passant, il est braqué avec un revolver, menacé par cet homme qui sera donc abattu par la flicaille. Et il explique ce qui s'est passé. Il a dit, moi, il n'y avait aucun doute, il voulait se faire un arabe pour se venger, pour venger je ne sais quoi, comme il dit, je ne sais qui. Ses yeux étaient pleins de haine. Donc, voilà, ça, c'est le témoignage de la personne qui a failli mourir sous les balles de ce terroriste, suite à l'attaque du terroriste. Donc l'agresseur est abattu. On se rend compte, suite à l'enquête, que chez lui, il y a plein de littérature d'extrême droite ou néo-nazie, des documents de la Seconde Guerre mondiale. Litigieux, pas une analyse intéressante de la Seconde Guerre mondiale. Pas mal d'armes blanches. C'est un ancien militant communiste de 33 ans qui a basculé, il y a un petit moment de ça, vers la mouvance identitaire. Et puis on apprend ensuite qu'il a aussi des problèmes psychiatriques. Vous me direz, si on n'a pas de problème psychiatrique, il n'y a aucune raison d'avoir des idées d'extrême droite, hein, vous me direz. Donc voilà, donc officiellement, certes, ce petit facho, là, ce militant d'extrême droite, n'est pas membre, hein, de Génération Identitaire. Par contre, il a fait cette attaque au nom de cette idéologie raciste, puisqu'il a attaqué cette personne parce que c'est un arabe, comme il le dit lui-même. À l'image, hein, des attaques terroristes islamistes qu'on a, où les terroristes islamistes sont pas membres officiellement des groupes djihadistes, hein. Par contre, ils agissent, ils partagent leur idéologie. On est bien dans la même démarche, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est la même démarche, et que ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il a pas du tout le même traitement. Au final, on a vraiment, et alors il y a ce témoignage de celui qui a failli mourir, de son avocat et de plein d'autres gens qui disent, bah, il y a quand même deux poids deux mesures de la part et de la police et de la justice et du gouvernement. On rappelle Génération Identitaire, donc qui est inspirateur de cette attaque, qui est impliqué dans de nombreuses violences dans plein de villes, notamment à Lyon, qui a manifesté dans le centre-ville de Nice après l'attentat, une manifestation illégale, enfin hors toute légalité. Eh ben, l'État français ne demande même pas la dissolution de cette milice, ce groupuscule. Il y a vraiment un deux poids deux mesures dans la reconnaissance de l'extrême droite aujourd'hui, et de ce qu'on fait contre l'extrême droite. Quand l'extrême droite est religieuse et qu'elle est plutôt islamiste, là on attaque plein but. Le reste de l'extrême droite, on y va tranquille, on y va cool. Alors vous me direz, c'est pas totalement illogique quand on voit le ministre de l'Intérieur qui fait quasiment une politique d'extrême droite, quand on voit que Marine Le Pen, elle est invitée régulièrement à venir discuter en tant que chef politique avec les membres du gouvernement, on se dit qu'effectivement il y a une accointance très très forte pour l'extrême droite traditionnelle française blanche raciste qu'on connaît, alors que l'autre extrême droite est combattue beaucoup plus fortement. Nous, on aurait pu rêver d'un monde où on attaque toutes les extrêmes droites, qu'elles soient religieuses ou pas, quelle que soit finalement leur forme. Là, on n'en est pas là aujourd'hui en France. C'est encore à moi ?
Oui.
Oui, je voulais reparler très brièvement de la mobilisation dans l'éducation, puisque ce matin, il y avait des images un petit peu marrantes, là, de cette tentative de blocage du lycée Saint-Ex sur le plateau de la Croix-Rousse. Ça a commencé très tôt, juste avant l'ouverture, hein, donc vers 7h30 à peu près. Comme d'habitude, hein, qu'un petit groupe de lycéens arrive, essaye de bloquer le lycée avec tout ce qu'ils trouvent autour, donc des poubelles, des éléments de chantier, enfin tout ce qu'on connaît, hein, quand on essaye de monter une barricade pour empêcher le fonctionnement là, du lycée. Donc c'est un nouveau blocus, tentative de blocus, dirons-nous, et comme ça s'est fait depuis lundi, ils demandent que les mesures sanitaires soient mises en œuvre sérieusement, réellement, dans leur lycée. Hein, on est dans des revendications sanitaires, même si c'est un prétexte pour contester pas mal de choses. C'est quand même ça le sujet principal. Bien évidemment, quelques temps après, les flics sont arrivés et les ont virés manu militari. Alors, il y a eu ça ce matin ici à Lyon, sur la Croix-Rousse. Il y a eu ça hier à quelques endroits en France. Ça a commencé dès lundi, les mobilisations. Et à certains endroits, ça a marché, puisqu'ils ont pu obtenir quelques avancées, les lycéens. Alors, quelques petites avancées, notamment que les profs arrêtent de faire cours avec 35 élèves, quoi. Hein, puisque dans les protocoles, on est censé être 6 au maximum quand on se regroupe. La 35, on est un peu loin du truc. Donc, à certains endroits, l'éducation nationale a accepté que les élèves soient partagés en deux groupes. Donc du coup, on se retrouve à 16 normalement, 17 ou 18, ça dépend des effectifs. 18 ou 17 si la classe est à 35. Donc ça, c'est pas mal. 25 lycées, essentiellement dans l'Île-de-France, ont obtenu assez rapidement ces choses-là dès lundi. Faut se rappeler aussi qu'il y a eu une mobilisation avant la rentrée de syndicats d'enseignants pour essayer... Alors, ils avaient déposé un préavis de grève lundi pour protéger tous les personnels. Tous les personnels, notamment, qui se seraient sentis mis en danger par le protocole ridicule que l'éducation nationale met en place dans ces établissements. Et donc, voilà, pour être protégés par un préavis de grève, si jamais ils ne voulaient pas aller bosser. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous avez lu le protocole, on est très loin... c'est pas du tout... Dans l'éducation nationale, le protocole n'est pas le même que dans la vie de tous les jours, pour les autres. Dans la vie de tous les jours, le protocole est plutôt rigoureux, plutôt assez proche des recommandations des services de santé. À l'éducation nationale, le protocole, il est à des millions de kilomètres des recommandations sanitaires, notamment pendant des temps un peu précis. Alors les zones fumeurs dans les lycées, je vous parle pas de la catastrophe. Les cantines, c'est pire que ça. Alors qu'il y avait plein de solutions. Alors, il y a des idées qui se mettent en place là sur les cantines, peut-être pour les semaines qui viennent, s'ils veulent conserver l'ouverture des lycées, pour éviter de basculer tout en distanciel, alors qu'on sait que le distanciel va créer de l'inégalité très importante entre les familles aisées et les élèves de familles aisées, les élèves de familles moins aisées. Donc voilà, alors à savoir que dans le protocole ridiculement sanitaire qu'on a actuellement dans l'éducation nationale, il y a quand même en bas de la 6e page un truc là qui dit que si jamais un établissement, je le cite, au regard de sa taille et de son organisation n'est pas en mesure de respecter les règles posées par le protocole, par le présent protocole, on a droit de faire autrement et notamment de renvoyer en partie les élèves chez eux pour garder que des demi-classes. Donc c'est quand même prévu ça dans le protocole, c'est pour ça que ça a pu être mis en œuvre dans ces 25 lycées dès lundi, plutôt en région parisienne. Et voilà. Donc là, il y a un petit peu des choses qui bougent. Si jamais il y a de gros clusters, alors les lycées, ça n'a pas été une zone très importante de contamination. Quand on est dedans, on s'en rend compte. La majorité des contaminations, elle vient du sein des familles. Dès qu'il y a quelqu'un dans la famille qui est malade, la probabilité qu'il contamine les autres, elle est très très forte, bien plus qu'un élève au sein d'une classe. Hein. Parce que à la maison, on n'a pas de masque, on met pas du gel hydroalcoolique toutes les 10 minutes. Donc il y a tout ça qui rentre en compte. Mais le facteur de risque, il existe à des moments particuliers dans la vie du lycée, notamment ces périodes de cantine, les récréations, c'est un peu mieux géré. Ouais, après, ça dépend, c'est très inégal d'un lycée à l'autre, d'un collège à l'autre, d'un endroit à l'autre, enfin, voilà, ça reste très inégal. En tout cas, la mobilisation dans l'éducation se poursuit, elle n'est pas hyper importante, elle n'est pas nulle non plus. Ça a du mal à démarrer parce que personne ne sait quoi faire réellement dans les personnels éducatifs ou dans les personnels de l'éducation nationale. Tout le monde est entre deux, il faut protéger les gens. Est-ce qu'il faut reprendre les cours? La majorité des profs, ils n'ont pas envie de retourner en distanciel. Ça ne marche pas très bien. On n'a aucun moyen. Les profs se servent de leur propre téléphone, leur propre ordinateur. L'éducation nationale, c'est le pire patron du monde. Il faut quand même voir ça. Amazon et Jeff Bezos, à comparer, ils aident ses salariés. Enfin, au moins, ils respectent presque le droit du travail. Dans l'éducation nationale, le droit du travail, il tient sur une feuille. Donc du coup, les profs ne sont pas super motivés pour basculer forcément en distanciel. Par contre, ils aimeraient, et les élèves, je pense, c'est un peu pareil, avoir des conditions sanitaires dignes de ce nom. Donc voilà, d'ici quelques semaines, peut-être que ça va changer, même avec ou sans mobilisation d'ailleurs, parce que la situation risque de ne pas évoluer dans le bon sens, ou pas assez vite, en tout cas dans le bon sens. Donc voilà, on en est. En tout cas, la mobilisation dans l'éducation continue. Donc il y aura sûrement encore d'autres actions demain et après-demain.
Oui, on aurait pu reparler un petit peu du télétravail. Après le confinement, c'était déjà posé la question de savoir comment les entreprises réagissaient sur le déconfinement, comment certaines entreprises, grosses ou toutes petites, pouvaient inciter les salariés à revenir au travail en présentiel. La question s'était déjà un peu posée. Moi, j'avais fait un peu le tour, hein, peut-être que vous l'avez fait aussi autour de vous, pour savoir si les gens s'étaient sentis obligés de retourner tout de suite sur leur lieu de travail. Et cette question, elle se repose aujourd'hui. Alors, moi, je trouve que les syndicats de salariés sont pas très offensifs sur la question. On sent qu'il y a un petit peu des remontées, mais tout le monde a l'air un petit peu gêné quand même aux entournures pour poser la question. On parle des cantines dans les établissements scolaires, mais se pose le cas de la restauration, donc le fait de manger, hein, je parle pas de la restauration, le truc à côté de chez vous, quand on est en entreprise, en présentiel. Donc là, on a le problème, c'est que le gouvernement, avec Madame Borne, nous dit c'est pas un choix, le télétravail, mais en même temps, on nous dit pas non plus que c'est une obligation, puisque ce n'en est pas une. Alors, le Code du travail prévoit bien que normalement on doit protéger les salariés en cas de phénomènes particuliers dont les épidémies, mais le gouvernement ne se sert pas de ce truc dans le code du travail pour imposer le travail à domicile des salariés du privé, et encore moins dans le public, les fonctionnaires, coucou, j'en espère que vous allez bien. Je ne parle pas des enseignants, mais de tous les autres qui sont en collectivité territoriale ou qui sont fonctionnaires d'État. Là, on a une difficulté aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a des grosses entreprises qui tentent de prendre des procédures dans ce qui va être leur cantine, hein, dans les selfs, ça dépend comment on appelle ça, sur son lieu de travail, pour réduire la circulation, pour aménager des horaires, pour aménager plein de choses. On rappelle que normalement, il y a une règle assez simple, c'est que vous n'êtes pas censé manger sur votre outil et votre espace de travail, donc on ne mange pas sur son bureau. Hein, entre son clavier et sa souris et devant son ordinateur, vous n'avez pas le droit. Parce que sinon, bah, qu'est-ce qui se passe normalement, hein, votre employeur, employeuse ne vous laisse jamais quitter votre espace de travail. Et puis on ne mange pas non plus sur sa machine, hein, sur son outil de production. C'est assez simple. La difficulté qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve avec un confinement dans lequel beaucoup d'entre nous allons quand même travailler, soit par choix, parce que chez nous, on n'a pas un espace de travail qui nous a permis d'être heureux et heureuses lors du premier confinement, donc on n'a pas envie de revivre des situations dans lesquelles nos employeurs n'ont pas mis à nos dispositions les outils adéquats pour être chez nous, confortablement installé. Ça, c'est un vrai problème, en fait, parce qu'il y a aussi des employeurs qui n'ont pas envie de s'emmerder, hein, très clairement, et qui n'ont pas envie d'aller acheter un petit peu du matériel pour que vous puissiez travailler chez vous en toute sécurité.
C'est le cas de l'éducation nationale.
Ouais, tout à fait. Et il y a aussi des gens qui, par isolement, n'ont pas non plus envie de rester à domicile, coincés entre leur frigo et la porte de la salle de bain. Il faut entendre tout ça. Et puis, vous avez effectivement aujourd'hui des gens qui vous incitent à revenir dans les employeurs assez fortement. Alors, il y en a, c'est pas vraiment un choix. D'autres, ça va être un peu moins direct. Mais finalement, on s'aperçoit aujourd'hui, beaucoup d'employeurs demandent à leurs salariés de revenir. Et la problématique, j'y reviens à mon histoire de restauration, c'est où est-ce qu'on mange aujourd'hui, puisque une partie des salariés peuvent aller effectivement habituellement manger à l'extérieur, hein, que ça soit dans la restauration rapide ou sur une restauration traditionnelle, on sort de son lieu de travail et on va manger dehors. Aujourd'hui, les restaurants sont fermés. Il fait froid, donc on ne va pas se mettre sur un banc. Et puis il paraît qu'il ne faut pas rester statique. Donc là aussi se pose le problème d'être dehors. Le problème dans beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de lieu de restauration, c'est que vous avez peut-être un petit micro-ondes dans un endroit avec une table. Mais parfois, hein, dans les TPE et dans les un peu plus grosses entreprises comme les petites PME, vous avez une table de réunion qui sert aussi de table de repas à midi. C'est convivial, c'est sympathique. Le problème aujourd'hui, c'est que cette table, elle va être partagée par tout le monde, sans aération, il fait froid, personne n'a envie d'ouvrir. Et vous avez peut-être, vous, une difficulté, c'est de faire admettre à vos collègues, parce que vous, vous avez envie d'ouvrir la fenêtre, vous avez envie d'aérer, qu'il faut ouvrir, et les autres ne veulent pas, et votre employeur ne vous soutient pas. Et là, on entre dans une problématique, c'est la pression sociale et la pression du travail, qui fait qu'on a du mal aujourd'hui, je pense, à se rendre compte de ce qu'on vit individuellement dans nos entreprises, et en particulier dans les petites entreprises, dans celles où ben, on est quelques-uns, alors on se croise, on essaye de faire un jour chacun, chacune, pour venir au travail, mais n'empêche qu'il y a la pression sociale. Il y a la pression de l'employeur qui fait qu'on va peut-être accepter d'aller au travail alors que ça nous emmerde. Et que ça, c'est aussi peut-être quelque chose qu'il faut entendre. Si certains et certaines d'entre vous, on a envie d'y aller parce que chez nous, c'est pas adéquat comme espace de travail, d'autres n'ont pas envie de faire ce cheminement. Et puis, il reste une problématique, hein, c'est où est-ce qu'on mange, comment on fait, comment on s'organise. Et ça, j'en ai un peu l'impression qu'il y a des employeurs qui n'ont pas trop envie de se poser la question.
Alors, les grosses boîtes, elles sont plutôt organisées, j'ai l'impression.
Elles essayent, en tout cas.
C'est dès qu'on tape dans les petites où ça pose problème.
Et en même temps, on s'est aperçu que les grosses boîtes aussi, par exemple Total, hein, fait un peu la une, s'est fait taper sur les doigts parce que ça fait partie de ces grosses entreprises, là on parle quand même d'une multinationale, hein, ouais, qui a demandé à ses salariés de revenir. Sans trop mettre en place un petit du télétravail. D'autres ont fortement incité à revenir dans les grosses entreprises. On parle de la BNP, par exemple.
Voilà, des endroits où on peut télétravailler. Parce que dans une raffinerie chez Total, par exemple, le personnel ouvrier qui travaille sur la raffinerie.
Il a l'usine, on s'entend. Il y a l'outil de production qui est là.
Et d'ailleurs, lui, il a souvent des zones prévues un peu. Bon. Voilà. Par contre, c'est tous les gens dans les bureaux, effectivement, qui font l'administratif. Il y avait possibilité de passer en télétravail. Et là, il y a de la réticence idéologique en fait aussi. Hein,
souvent oui, c'est-à-dire que quand on vous surveille pas, on a l'impression que vous foutez rien.
C'est ça.
Et j'aurais envie de dire, et alors ? Mais ça c'est parce que ça c'est nous. L'essentiel, mais c'est comme toujours, on en revient au temps de travail, on nous demande de travailler 35 heures, mais si franchement votre boulot il est fait en moins de temps, avec une meilleure organisation individuelle qui gêne pas le collectif, quel est le problème,
ouais, hein, le problème?
Mais on en est encore à nous
si
calculer.
Patron, non, mais si le patron il s'en rend compte, il va t'en donner plus.
Eh ben voilà, c'est bien ça le problème. C'est qu'on doit être productif les uns et les autres et les unes et les autres. Et c'est bien ça le problème aujourd'hui. Et ça se retrouve aujourd'hui dans cette problématique du confinement, du couvre-feu, du télétravail. On retrouve toutes les problématiques habituelles du travail, des rapports au patronat et aux employeurs, et qui se retrouvent aujourd'hui vraiment être un problème. Alors, ça doit nous amener à réfléchir, parce que d'abord, peut-être qu'on peut se dire que les épidémies, il y en aura d'autres, et puis surtout à savoir comment on veut repenser le modèle du travail et le modèle de la hiérarchie, et surtout ce temps de travail qui est quand même encore un problème. Rappelons qu'effectivement, on a une génération là à avoir commencé à travailler à 35 heures, on avait un peu connu les 39 heures, mais on s'en souvient plus bien. Parce qu'il y a la génération qui a jamais connu les 39 heures. Puis il y a celle qui a bien bien travaillé pendant les 39 heures, hein, même avec avant, hein, souvenez-vous. Ça a été dur, hein, ça a été dur. Hein. Mais en fait, il faudrait penser peut-être à réduire encore nos temps de travail, à partager le travail, et ça, avec le télétravail, on se rend bien compte que quand un manager, comme on dit aujourd'hui, une manageuse, enfin un chef, quoi, veut pas vous faire télétravailler parce qu'il peut pas vous surveiller, on n'est pas prêt de réduire nos temps de travail, parce que l'idée, c'est de nous occuper au maximum pour être toujours plus productif, alors que la plupart d'entre nous, on a des métiers qui n'ont aucun intérêt, et on ne produit rien du tout, et pourtant, on nous demande encore de produire davantage. Donc, je sais pas, et peut-être qu'on va être encore plein à faire des tableaux Excel pour rien, voyez, mais ce qui serait bien, c'est qu'on le fasse au moins dans des situations choisie et voulue et serein et sereine tranquillement.
Ouais, mais c'est difficile dans le cadre du capitalisme.
Ouais, mais du coup le gouvernement là-dessus montre encore une faiblesse, c'est qu'il est pas capable de gérer ces problématiques et surtout laisse la part au patronat de faire un peu ce qu'il veut, faire largement ce qu'il veut.
Ouais. Alors on va parler un peu de Borat. Donc Borat, vous savez, c'est le personnage de Sacha Baron Cohen qu'il avait créé il y a, je sais pas, il y a peut-être une dizaine d'années, un peu plus.
Un peu plus, hein.
Un peu plus, ouais. Enfin, en tout cas, il y avait eu un premier film, voilà, extravagant, où il filme des situations réelles, où il met en scène des trucs qu'il a envie de dénoncer, quelque part. Alors, je vais pas parler pour l'instant du film, je vais parler de la réaction qu'il y a eu à l'affiche, aux affiches. Alors, si vous avez pas vu l'affiche, c'est un peu comme le premier film, où le premier film, il avait une sorte de string qui lui tenait que le sexe, on va dire, qui a remonté avec deux petites ficelles là. Et là il a fait la version mais à la place du string, ce coup-ci c'est un masque chirurgical, et il y a cette affiche où il est allongé comme ça, où il est debout, ça dépend si l'affiche est plutôt format paysage ou dans l'autre sens. Et il y a ça sur des bus à Paris, et il y a des chauffeurs qui ont trouvé ça atroce. Alors pourquoi ils ont trouvé ça atroce? Alors la nudité, ça les gêne un peu, mais c'est pas le pire. Le pire, c'est que, et moi je ne l'ai pas vu en fait quand j'ai vu les affiches, c'est qu'il a une bague, et sur sa bague, c'est écrit Dieu en arabe, donc c'est-à-dire Allah. Un certain nombre de chauffeurs, suffisamment importants pour que ça sorte et que ça embête notamment la RATP, donc du coup des chauffeurs musulmans, parce que c'est eux qui ont mal vécu les choses, les autres lisant pas l'arabe, puisque c'était écrit en arabe, ils ont pas réagi, donc c'est eux qui ont réagi, et ils ont dit c'est dégueulasse, c'est une attaque à notre religion, et ils sont allés gueuler pour faire retirer les affiches. Alors, c'est juste, bon, dommage de manquer de culture, parce que Allah écrit en arabe, ça veut dire Dieu, et ça concerne Dieu. C'est-à-dire, ça, si on est musulman, ben, ça concerne le Dieu des musulmans, mais si on est chrétien maronite, Et ben quand on parle de Dieu et dans les messes, on dit Allah pareil. En fait, c'est il y a une espèce de sous-culture en Europe qui fait croire que Allah, ça veut dire c'est le Dieu des musulmans. Non, ça veut juste dire Dieu dans la langue arabe. Et donc effectivement, tous les chrétiens de langue arabe disent Allah aussi pour leur Dieu qui est pas le même. Enfin si, mais pas la même religion. Enfin bon, bref, ils ont pas montré signe de culture et d'intelligence, ces chauffeurs. Ils ont essayé de faire pression et de faire censurer le truc. Parce que c'est ça dont il est question, c'est de la censure. Borat, quand il s'affiche avec cette bague en écrivant Dieu, on ne sait pas le sens que ça veut dire. Ça veut dire que c'est lui qui est Dieu, ça veut dire que... Bon, je pense que c'est ça, lui, il s'allonge, il dit, regardez, c'est moi le Dieu, quoi, dans une position langoureuse, assez typique des représentations un peu chrétiennes, avec l'homme barbu, là, sur son nuage. Il est plutôt dans cette position-là, ça se trouve, c'est ça qu'il veut dire. En fait, il fait de la provoque tout court. Hein, et il ne faut pas chercher autre chose. Bien évidemment, la provoque a été mal vécue. Donc, ils ont essayé de faire pression sur la RATP. Et la RATP a dit qu'ils n'enlèveraient pas la publicité. Par contre, le TIS, les transports intercommunaux de Centre-Essonne, là où d'ailleurs il y avait les affiches en horizontale, eux, ils ont retiré l'affiche. Et alors, pour pas faire croire qu'ils avaient répondu à la pression des chauffeurs religieux, ils ont dit, en fait, on s'était trompé, c'est une erreur technique, on n'avait pas prévu de mettre cette affiche, parce qu'elle est, pour nous, non conforme à l'esprit des bus qui circulent dans ces quartiers populaires. Alors déjà, ils laissent entendre que dans ces quartiers-là, ben, il y a des choses qu'on peut pas montrer. Donc déjà, c'est un peu compliqué ce qu'ils essayent de dire, ce qui est sûrement pas faux, mais c'est triste. Et puis, ils assument pas du tout, ils font semblant, et voilà, ils ont reculé, ils ont eu l'air ridicule. Donc, voilà. Alors, l'intérêt, c'est que ça fait parler de Borat, de ce personnage, et que si les gens regardent les films de Borat, au moins, ils vont peut-être acquérir le sens de l'humour, ou alors ils vont être horriblement choqués. Je sais pas, c'est à vous de voir ce que vous pouvez penser de ce genre de film. En tout cas, sur ce deuxième Borat, qui est sorti sans qu'on s'y attende, il faut dire qu'il l'a tourné l'été dernier, et il a été obligé de se planquer. En fait, il n'a pas parlé, il n'y a pas eu de promo autour de la préparation du film, parce qu'il est retourné aux États-Unis d'Amérique, bien évidemment, et il est allé tourner, comme d'habitude, incognito. Il y a des stars dedans. Il y a Monsieur Giuliani, vous savez, l'ancien maire de New York, qui est interviewé, et ça va très loin. C'est limite, à la fin, si jamais il change pas la scène, il couche avec la journaliste, quoi. Déjà, il lui met la main à un moment.
Je sais pas s'il couche avec, moi, je dirais plutôt qu'il l'agresse.
Je veux dire ça dans le sens, elle est, c'est ce qu'il veut montrer, Borat, enfin, Sacha Baron Cohen, que, là, il va aller très loin avec la journaliste. Bien évidemment, sans qu'elle soit forcément d'accord. Ça, c'était prévisible. Mais ça va super loin. Donc, lui, il intervient pour arrêter la scène, heureusement. Et il y a plein de trucs comme ça dans ce film. Et ça va toujours très loin, ça dénonce le racisme. Voilà, on peut faire un gâteau avec écrire une phrase purement antisémite et la personne écrit la phrase et elle dit rien, quoi. Enfin, des choses assez incroyables, comme d'habitude dans cette Amérique trumpienne. Il l'avait préparé pour qu'il sorte juste avant l'élection, en fait. Pour lui, c'était aussi, c'est pas qu'un film délire et un film drôle, c'est un outil de propagande pour montrer à quoi peut ressembler cette Amérique raciste. Voilà. Même si moi je trouve que le film est moins réussi que le premier. Les scènes chez les fans de Trump avec le meeting où ils chantent une chanson, mais horrible, horrible, et les gens adhèrent à fond, c'est assez impressionnant et drôle quand même.
Oui, alors moi je trouve que ce film n'est pas vraiment réussi. Il y a une espèce de redite là où effectivement on pouvait trouver que le premier touchait juste en mettant en avant un certain nombre de personnages qui étaient caricaturaux parfois, mais finalement représentatifs de certaines populations, certaines réactions aux États-Unis d'Amérique. On se perd un petit peu finalement dans des choses où tout ça semble très très accepté. On a ces coupures de fiction avec donc le personnage de sa fille qui ouais. interviennent au milieu, qui permettent effectivement d'amener la scène d'après, mais on dirait un petit peu des sketchs, et parfois ça fait un peu plouf. Alors évidemment on est toujours un peu estomaqué par la réaction antisémite, raciste.
Alors là c'est sexiste aussi, il y a pas mal d'endroits quand même.
Évidemment, on ne peut être que effaré par ces réactions, mais finalement, est-ce qu'on en est surpris ? Moi, j'en suis pas tellement surprise de ces réactions. Ils rencontrent des gens qui semblent tout à fait finalement bien dans cette problématique. On s'aperçoit, moi je trouve surtout que aux États-Unis d'Amérique, le pognon vous fait tout faire, dont écrire des trucs antisémites sur un gâteau. Ça veut pas dire que forcément les gens sont antisémites, je n'en sais rien, mais en tout cas le pognon il te fait faire tout ce que tu veux du moment que tu sors les dollars. Donc je trouve que ce film a une portée politique qui est bien amoindrie, peut-être par sa forme, peut-être par l'urgence aussi du tournage cet été, pour pouvoir le sortir assez rapidement. Alors derrière il y a aussi cette promotion d'Amazon Prime qui veut effectivement rentrer sur le marché de la plateforme en ligne face à Netflix, Disney. Est-ce que ça a amené une urgence? Je ne sais pas, mais je trouve que ce film n'est pas vraiment réussi en termes politiques, même en termes artistiques, même si effectivement il y a choses absolument magnifiques, parce que c'est ignoble. Vous voyez, c'est l'être parce humain, on n'a pas confiance à lui dans ce film.
Hein. Il va jusqu'au bout, quand même. Pour prendre le pitch du film, il prend sa fille, il va la donner à un homme politique, il donne sa fille, il cherche à donner sa fille au vice-président américain de Trump, là, enfin son vice-président là. Donc il veut donner sa fille pour son pays, qui est donc le Kazakhstan. Voilà. Donc ça va très loin. L'image de la femme, il y va au maximum, il la traîne dans une cage, quoi. Il regarde les réactions des gens, quoi. Enfin c'est assez hallucinant quand même ce qu'il
peut faire. Qu'un homme accepte de vendre une cage sans gêne à un autre homme qui vient lui dire que c'est pour mettre sa fille, qui n'est pas de réaction. Voilà. Après il y a des choses un peu faciles. Est-ce qu'il fallait forcément trouver une femme noire pour être celle qui va se rebeller à Borat? On en est très heureux.
Oui, tant mieux, c'est elle qui est glorieuse.
Mais c'est vrai que du coup le film a un petit côté manichéen parfois. Ouais, il dénonce des choses un petit peu faciles. Mmh. L'antisémitisme aux États-Unis, on n'en doute pas et on n'en doutera jamais que c'est une réalité.
Ouais, mais ça c'est son credo un peu, d'essayer de montrer ça. Bah,
c'est normal. Il se bat contre au quotidien ça, contre l'antisémitisme. On pourra d'ailleurs dire qu'il y a un moment il tombe sur deux femmes. Il joue à l'antisémite en allant voir deux femmes juives qui sont d'une bienveillance absolue. L'humanité peut être belle quand même. Elles sont incroyables. Et il faut savoir que l'une des filles de ces femmes a porté plainte contre Amazon Prime et contre la production. Pour avoir associé cette femme contre son gré à ce film de Borat dans un film comique, en estimant que sa mère n'aurait pas aimé se voir dans un film comique pour parler de la Shoah.
Oui, alors qu'il dénonce l'antisémitisme.
Oui, mais voilà, c'est...
Mais elles sont incroyables, ces deux...
Mais ça, voilà, alors que ces femmes sont d'une bienveillance
absolue. Un fan de Trump qui arrive, qui rentre dans une synagogue et qui sort des ignominies sur les juifs, et elles sont zen, elles essayent de lui expliquer, mais non, c'est pas ça, mais... Enfin, c'est incroyable. Elle joue pas, quoi. C'est des vrais, quoi. C'est un truc de dingue. Il est tombé. Alors, quand on fait un film comme ça, il essaye plein de trucs, il y a plein de trucs qui marchent pas. Donc, on a à l'écran, bien évidemment, que les actions qui ont donné un résultat percutant dans le sens où il voulait aller. Ça se trouve, il a eu des gens qui l'ont jeté comme une merde et ça jouait pas dans le film. Et il aurait mérité d'être jeté comme une merde sur cette scène-là, franchement, parce qu'il est ignoble. Voilà, alors qu'il dénonce le truc. Donc voilà, et ce que je voulais dire, un truc marrant, parce que ça se rebelle. Alors même au Kazakhstan, comme d'habitude, il donne une image super horrible de ce pauvre pays qui fait pas rêver non plus en temps normal. Du coup, ça galère. On rappelle, le Kazakhstan, c'est un pays majoritairement musulman. Donc il y a plein une mobilisation pour demander la censure du film, tout ça. Et le truc le plus drôle, finalement, c'est que l'Office du tourisme kazakh, donc le truc d'État, là, pour faire valider, pour qu'il y ait des touristes au Kazakhstan, au lieu soit de se taire, soit d'essayer d'attaquer ce film, ils s'en servent. Et du coup, ils ont lancé une campagne de promo en reprenant la phrase qu'il dit sur « It's very nice » sur son pays, enfin sur le Kazakhstan. Et du coup, ils se servent du film pour faire la promotion du pays. Je trouve ça finalement surréaliste et drôle. Et finalement, les membres de l'Office du tourisme kazakh en Kazakhstan, ils ont bien plus d'humour et des compréhensions de ce que peut être l'humour que les pauvres chauffeurs de bus de banlieue parisienne là qui ont attaqué juste pour l'affiche et cette fameuse bague. Voilà, j'ai trouvé ça assez drôle. Et finalement, la meilleure réaction à un truc comme ça, c'est de faire comme ils ont fait, c'est de ça nous plaît pas, mais on va s'en servir quand même et on s'en fout du reste. C'est peut-être ça les bonnes réactions plutôt que l'agressivité et la violence et la censure.
Oui. Mais c'est vrai qu'il y a des il faudrait peut-être presque le regarder que les moments forts, c'est-à-dire d'être avec des hommes qui chantent et clament des coupelés comme les Saoudiens en parlant des journalistes aux États-Unis d'Amérique. Ça nous montre quand même ces États-Unis d'Amérique aujourd'hui où on n'a pas peur de menacer des journalistes, on n'a pas peur de les menacer de mort en voulant faire comme les Saoudiens, hein, puisque c'est ça qui est chanté dans le film, qui est clamé dans le film et chanté. Donc ouais, il arrive à faire chanter ça quand même. Enfin, c'est un truc de fou, quoi.
Les gens, ils sont heureux de chanter, ils applaudissent, ils sont super.
Et ils ont pas l'air morts de rire en se disant putain, on est bourrés, on chante des conneries. Non, ils ont l'air sur la même idée que Trump dit que c'est des fake news et que il faut abattre cette presse. On est dans cette lignée-là. Donc c'est là où je trouve que le film manque peut-être d'un peu de sérieux dans la moquerie. Je sais pas comment le dire, mais il y a un moment c'est bien fait à des moments et en même temps beaucoup d'autres moments viennent affadir le propos et c'est assez dommage. Voilà.
Tout à fait. Je sais pas de quoi on parle maintenant. Tu vas me le dire parce que j'ai pas de
feuille de conducteur. Écoute, je peux parler si tu veux.
Allez, vas-y.
Je vais parler d'Angie. Très rapide, ça va être très rapide ce point écho ce soir. Pour dire que Angie a décidé finalement de ne pas fournir de gaz naturel produit à partir du gaz de schiste des États-Unis d'Amérique. Le groupe était en discussion avec NextDecade pour ce projet de gaz naturel liquéfié, donc produit à partir de ce gaz de schiste. Alors, Engie se retrouve face à deux problématiques. D'abord, l'État français, qui me semble ne pas bien avoir soutenu Engie dans cette démarche, ce qui semble poser des problèmes de diplomatie. De fait entre la France et les États-Unis d'Amérique, mais bon là on va dire que les États-Unis d'Amérique sont un peu occupés à faire autre chose, donc on peut penser que on en rediscutera peut-être au mois de janvier. Et puis il y a eu la pression des associations environnementales, des ONG qui ont demandé à Engie d'arrêter cette démarche de gaz de schiste. Alors pour moi ça va faire que suspendre. Il y a bien un moment où Engie va remettre les deux mains dedans et attendre que tout ça se calme, peut-être pour repartir. L'idée, c'était d'importer quand même entre 2025 et 2045 jusqu'à 36 cargos de gaz de schiste liquéfié extrait des États-Unis d'Amérique. Donc d'endroits où en plus il y a des luttes sur place. Donc c'est aussi pour ça que les ONG sont montées au créneau. C'est parce qu'il y a des gens sur place qui se battent contre cette exploitation. Et en France, on disait à Engie, attendez... Stop. Moi je pense qu'il faudra peut-être surveiller parce que c'est pas dit qu'Engie fasse pas ce travail. Hein. 2025 c'est loin.
Ouais. Et puis alors Engie c'est un peu comme EDF. Ils ont des campagnes de pub très écolo puisque là maintenant chez Engie on peut changer de contrat et prendre un contrat avec un peu, beaucoup ou 100% de gaz naturel produit vert en fait, produit avec de la méthanisation, des choses comme ça. Et en fait les gens qui vont prendre ces contrats là à côté, ben les autres ils auront 100% de gaz pourri et on a cette ambiguïté. On met une image verte, c'est du beau greenwashing et par derrière ben la majorité du gaz c'est un hydrocarbure qui soit produit d'ailleurs avec le gaz de schiste ou finalement issu de l'Ouzbékistan ou de la Russie, ça reste un hydrocarbure et c'est pas très bon. Et c'est un peu comme EDF fait en vendant des contrats, vous avez de l'électricité verte et pendant ce temps les autres ils ont 100% d'électricité radioactive et c'est une belle arnaque en fait. Le seul moyen d'avoir un fournisseur d'énergie respectueux de l'environnement, c'est qu'il fasse que ça en fait. C'est que vous allez chez un fournisseur qui fait que de l'énergie verte. Comme ça, il n'y a pas de risque. Et il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a un ou deux, donc ça limite beaucoup de choix, en fait. Et les autres, c'est juste de l'arnaque, du greenwashing. Donc Engie font comme les autres, ils sont assez forts là-dessus. T'as d'autres infos économiques ?
Rapidement, pour dire que c'est finalement Carrefour qui a été choisi par le tribunal de commerce pour reprendre Bio, c'est bon. Ça marche dans l'idée que Carrefour va se diversifier. Ah, vous savez, Carrefour a ses hypermarchés, mais se diversifie.
Ils avaient même des magasins bio Carrefour maintenant.
Voilà, et se diversifier donc dans le commerce dit de proximité, dont on parle beaucoup ces derniers temps, avec ses Carrefour Market. Donc l'idée, c'était d'avoir d'autres points de vente, en particulier dans le bio, parce que ça, c'est là où il y a des perspectives d'avenir. Hein. L'hypermarché...
Ouais, c'est un peu has-been maintenant.
Ça sature et ça has-been, comme tu dis. Au-delà du fait que les différents gouvernements nous promettent toujours de stopper l'implantation de nouveaux énormes hypermarchés, vous savez, tout ce qui entoure nos villes. L'idée, là, c'est quand même justement de s'installer sur le marché intérieur des villes, et pas que sur des grosses villes comme Lyon, hein, mais sur d'autres petites villes. Là où Monoprix, où prend de l'ampleur à la suite de marques qu'on connaît très très bien, hein. C'est les casinos, c'est Vival, tout ça c'est pareil, vous allez me dire, les anciens Proxy, enfin voilà, tous ces magasins, je parle de ces marques-là, mais vous allez dans d'autres villes, ce ne sont pas les mêmes enseignes qui tiennent le territoire, hein, les marchés, mais ça revient à peu près au même, donc chacun de ces acteurs de la distribution essaye de se positionner, et Carrefour choisit donc de se positionner en particulier sur le bio, et donc récupère bio, c'est bon.
Il y avait eu des luttes à bio, c'est bon, un petit moment.
Ouais, et puis c'est pour ça que ça faisait craindre un petit peu le pire. Alors on avait la famille Zoari, qui sont aujourd'hui les principaux actionnaires de Picard, le ouais. distributeur de surgelés, qui était aussi engagé pour faire cette reprise. Là, c'est Carrefour qui a semblé au tribunal de commerce amener le plus de pognon. Hein, globalement, ça va être proposé. Donc Carrefour a proposé 60 millions d'euros plus 40 millions d'euros d'investissement. Donc ça fait une belle enveloppe qui est amenée. On espère que les salariés vont pouvoir en profiter. Alors il y a 1000 salariés qui vont être soit repris, soit reclassés.
Ouais.
J'aime bien quand on dit un salarié reclassé. C'est mignon hein, quand même, hein, dire ça. Il y a plus de 100 points de vente. Je crois qu'il y a 107 points de vente. J'aimerais pas en oublier. C'est l'idée hein, d'arriver Carrefour, c'est ça, c'est la centaine hein, de points de vente qui est la mise en avant. C'est un nouveau point de Carrefour là-dedans. Je sais pas si c'est tellement bien que ces grandes enseignes mettent tellement le nez dans le bio. On en a déjà parlé ici, mais pour Alexandre Bompard, hein, le PDG de Carrefour, c'est une super belle réussite. Il a fait un communiqué sur Twitter. Je sais pas si les salariés de Carrefour et de Bio C'est Bon ont beaucoup bien lu ce courrier de deux pages. Il y avait pas encore beaucoup de réactions hein, sur son fil Twitter. Certains lui disaient ouais super, ah, c'est génial, puis l'autre allait leur dire attends, ça pue. Ouais, on pourrait dire un peu ça, ça pue quand même quand la grande distribution met son nez dans le bio, parce que est-ce qu'elle a le pouvoir ensuite de faire changer les normes du bio?
Ouais, bah de toute façon, elle a déjà mis son nez dans le bio depuis longtemps.
Et puis, ça veut dire qu'effectivement, on perd aussi une diversité d'acteurs qui pourraient détenir des magasins d'une manière générale, et en particulier vos magasins de proximité. Il y a un moment, hein, tout ce que vous aurez autour de vous appartiendra bien soit à Auchan, soit à Carrefour, soit à Casino, point final, et puis rentrer chez vous. Enfin, vous y êtes déjà, allez me dire.
Vous êtes déjà chez vous, puisque...
Donc, juste pour dire aussi sur Amazon, parce que la fois tu m'as posé la question, c'est très difficile de dire si Amazon fait du bénéf, de l'argent. Déjà, un, parce que je vous rappelle que c'est une multinationale qui sait très bien, qui a très bon comptable, hein, qui sait très bien manipuler, je vais le dire ça comme ça, ses chiffres pour faire en sorte que son bénéfice...
n'apparaisse pas.
Bah, n'apparaisse pas, déjà, qu'on ne le sache pas. Mais surtout, ne permette pas ce bénéfice de créer de l'impôt. Donc l'idée, c'est plutôt à un moment de savoir bien redistribuer le pognon qui est la marge, hein, si vous voulez, de la production pour arriver à ce que à la fin, les bénéfices ne soient pas imposables. Donc c'est l'idée. Ensuite de ça, Amazon, la problématique qu'on rencontre aussi là-dessus, c'est que déjà, c'est bien la problématique là qu'on a, hein, c'est comme tous les autres gros, c'est que l'argent, il circule beaucoup. Et que l'Amazon France, c'est pas Amazon France. Ce que je veux dire par là, c'est que on a beaucoup accusé Amazon, comme Google, comme les autres, de faire circuler l'argent. Et c'est-à-dire que l'argent créé sur le sol français ne reste pas sur le sol français. Ça, c'est aussi une des choses. Et puis, on pense souvent à Amazon, on pense souvent aux plateformes. C'est-à-dire qu'on pense au fait que tu reçois un colis chez toi. Le problème, c'est qu'Amazon fait beaucoup d'argent, et que c'est Amazon Cloud qui aujourd'hui fait beaucoup d'argent et permet à Amazon d'être bénéficiaire et en fait de faire rentrer de l'argent et donc de pouvoir redistribuer cet argent. C'est là où en fait il faut qu'on arrive à dans nos têtes à faire comme Google, pas penser Google c'est un moteur de recherche.
Oui.
C'est-à-dire qu'il faut aller bien plus loin que ça pour se rendre compte de ça. Aujourd'hui, Amazon est beaucoup attaqué sur le fait que va profiter du fait qu'il y ait du confinement, que les magasins soient fermés, que tu puisses pas acheter une paire de chaussures pendant le confinement dans ton magasin de proximité, qui, rappelons-le quand même, dans une grande chance, va être un magasin de franchisés, hein, ou en tout cas avec une marque qui est la même que Vichy, Avignon, Nîmes et Paris.
Oui, donc ça reste du gros capitalisme.
Voilà. Donc, si on veut parler de petits commerçants, on va peut-être déjà falloir redéfinir ce que cela veut dire. Hein. Moi, j'ai trouvé que c'est un débat qui n'était pas bienvenu au niveau des politiques et des médias, mais ça, c'est peut-être important. Et puis, Amazon, il y a une espèce d'hypocrisie, c'est qu'en fait, le nombre de Français et de Françaises ou d'habitants du territoire qui achètent sur la plateforme d'Amazon France est absolument énorme. Par contre, Amazon détient quoi, 20% du marché en ligne. Et le marché en ligne, c'est quoi? C'est 10% de la consommation. C'est un peu un truc comme ça. Donc en fait, ça reste quand même minime pour l'instant. Et aujourd'hui, ceux et celles qui tiennent le pognon dans l'économie, dans le cadre de ce confinement, c'est la grande distribution, c'est les Auchan, c'est les Carrefour. Et évidemment, derrière, il y a Amazon. Mais c'est peut-être pas que le problème, Amazon. Si vous voulez, c'est un peu comme quand on attaquait que McDo. Ouais. C'était bien attaqué McDo, il y a longtemps de ça. Il y a longtemps. Hein. Mais aujourd'hui, attaquer Amazon n'est certainement pas suffisant. Il faudrait peut-être se demander ce qui se passe sur tous les sites de ces plateformes. Cdiscount arrive juste derrière Amazon. On parle rarement de ce qui se passe dans les plateformes de Cdiscount. Qu'est-ce qui se passe dans les plateformes de Saranza qui vous vend justement des paires de godasses? Ben voilà. Je soulève la question.
Justement, je vais rester dans le capitalisme et je vais donner, à partir de deux articles, quelques petites infos sur les nouvelles structures du capitalisme et qui permettent de supprimer le salariat. Alors nous, on n'était pas forcément des ardents défenseurs du salariat, mais dans le système capitaliste actuel, c'est quand même le système qui protège le plus les salariés. On n'a pas trouvé autre chose dans le capitalisme libéral dans lequel on survit. Donc le premier article, c'est sur NOZ, N-O-Z. Alors moi, j'avoue, je n'avais jamais entendu parler de ce truc-là. J'ai lu l'article dans le Canard Enchaîné cette semaine. Donc c'est une boîte qui est spécialisée dans l'achat et la revente à bas prix d'articles invendus. Voilà, donc ils ont 6500 collaborateurs, hein, tu sais maintenant on dit collaborateurs, on dit plus esclaves, hein, ça s'est arrêté ça. 300 magasins, j'en ai jamais vu un de ce truc moi, je dois fermer les yeux quand je roule avec mon vélo dans Lyon. Et c'est le leader européen, soi-disant, enfin sûrement d'ailleurs, du déstockage. Et alors, ils essayent, ils ont une nouvelle politique, c'est qu'ils ont trop de salariés pour eux. C'est 6500 salariés, ça leur va pas, parce que les salariés, c'est protégé par le droit du travail. Et même s'il a été un peu détricoté, ce droit du travail, il y en a toujours trop pour le patronat. Donc eux, ils essayent de faire basculer un maximum de leurs salariés en les transformant en co-gérants. Alors, quelle est l'implication de tout ça? Vous allez comprendre. Alors, ils ont fait une belle plaquette, en fait. C'est un salarié qui a balancé, en fait, hein, qui bossait dans la rédaction de cette plaquette, dans la gestion de ça, qui a balancé, qui a dit « Non, mais c'est trop horrible, je balance. » Donc, une plaquette destinée aux salariés qui étaient soit en fin de CDD, soit en CDI, mais où la direction sentait qu'ils pouvaient basculer dans le monde obscur de la cogérance. Donc voilà, c'est un modèle entrepreneurial dit participatif, c'est ce qu'on lit dans la brochure qui vante, vous allez devenir, je cite, le chef d'entreprise que vous avez toujours voulu être ou rêver d'être. Ils vendent du rêve, hein. Et en plus, vous serez mieux payé, vous toucherez 1482 € net par mois au lieu de 1212. Si vous êtes un simple employé de notre belle entreprise NOZ. Alors, l'intérêt pour la boîte, enfin, il y en a plein. Alors, premièrement, les co-gérants, ils travaillent 39 heures, donc plus 35 heures. Alors, certes, ils sont payés un peu plus, mais bon, voilà, vous allez être un peu plus esclaves, comme avant, dirons-nous. Ils cotisent plus au chômage. Alors, ça fait moins de charges, mais du coup, quand ils vont vous virer, parce qu'ils vont vous virer un moment, eh ben, vous n'aurez pas droit au chômage. Et là, ça fait drôle, hein, quand on n'a plus de travail et que du jour au lendemain, on n'a plus de salaire non plus. Et plus d'indemnité, plus quelque chose qui fait un amortisseur. Autre chose intéressante pour une entreprise de faire basculer une partie de ses salariés en co-gérance, comme ça, c'est que quand t'es co-gérant, t'as pas droit de vote, en fait, à l'Assemblée Générale, et tu peux être licencié du jour au lendemain. Mais t'es pas licencié, en fait. Ils réunissent une Assemblée Générale et ils te virent. Comme ça, du jour au lendemain. Voilà. Il y a plus besoin de licenciement. Et t'es pas assujetti au droit du travail, puisque t'es patron, quelque part, quand t'es co-gérant, le statut, il donne ça. Donc, il y a toute la protection qui est liée au salariat qui disparaît. Donc, c'est ce qu'ils essayent de faire, NOZ, et ce qu'ils proposent à leurs salariés. Donc, comme ça, ça permet, quand ils ont un magasin non rentable, ils n'ont pas besoin de faire un plan social. Toutes les personnes qui sont sous forme de co-gérance, du jour au lendemain, ils font une assemblée générale, ils votent la fermeture du magasin, et ces gens-là se retrouvent au chômage mais sans indemnité. Voilà, donc c'est un vrai rêve de patron d'arriver à transformer ses salariés comme ça en co-gérants. Donc là, ça concerne Nose, voilà. Mais a priori, c'est pas les seuls à faire ça. Et puis un article que j'ai chopé aujourd'hui dans l'Humanité sur l'analyse. J'aurais pu la faire toute seule cette analyse, mais j'étais pas tombé sur le rapport. C'est un rapport qui est sorti le 30 octobre, qui a été fait par l'INSEE sur l'état du travail en France. Et cette étude, elle date de, c'est la dernière année entièrement étudiée, c'est 2017. Et c'est intéressant de cette analyse des chiffres. L'INSEE, c'est brut de décoffrage, ils prennent pas parti politique, ils prennent pas, enfin, il y a pas d'idée politique derrière. C'est on montre, on donne les chiffres, combien gagnent les Français, etc., etc. Donc là, on s'aperçoit. Alors l'idée, c'est et ce qu'on va découvrir, c'est qu'il y a une vraie discrimination de plus en plus entre les statuts de travailleurs. Alors ça, on le savait déjà, mais là, c'est des chiffres officiels. Notamment sur l'évolution des travailleurs indépendants à travers les plateformes qu'on a pu voir comme Uber Eats ou des choses comme ça, avec des salaires minables. Alors, en 2017, un actif perçoit en moyenne 22 930 euros par an pour ses activités professionnelles. C'est la moyenne, qu'on soit salarié ou non salarié. Quand on est non salarié, on va voir que ça, c'est les statuts, soit t'es patron, gérant, co-gérant, des choses comme ça, soit t'es auto-entrepreneur ou dans des statuts d'esclaves modernes à vélo ou à scooter pour livrer des plats cuisinés. Voilà. Ce revenu est stable sur les trois dernières années étudiées. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a?
Vas-y. Non, vas-y. Excuse-moi.
Non, tu voulais dire quelque chose?
Non, je t'en prie.
Un non-salarié sur 10, alors donc ces fameux hors catégorie, qui ne sont pas salariés mais qui ont un travail quand même, donc 1 sur 10 gagne moins de 1510 euros par an. Donc c'est les vrais esclaves, c'est les auto-entrepreneurs bas de gamme. Bas de gamme parce que le statut ne permet pas d'avoir un gros chiffre d'affaires et donc d'en vivre. Et 1 sur 10 gagne par contre plus de 82 850 euros. Parce que dans ces statuts non salariés, il y a les patrons dedans, notamment, quand ils ne sont pas salariés. Enfin, les patrons de PME, des choses comme ça. Donc là, ce que montre cette étude sur 2017, c'est que l'écart, il est très très important. Sur les salariés, l'écart de salaire n'est pas si important que ça. Par contre, sur les non salariés, l'écart, il est énorme. Entre les auto-entrepreneurs qui sont exploités par le système, et les patrons au-dessus, là, on a vraiment le grand écart. Alors, il y a tous les chiffres, et je ne vais pas vous les donner tous, parce que ça serait un petit peu fastidieux. Mais, l'étude montre ça, et notamment le développement de ces statuts non salariés, avec cette disparité, et le fait que les salaires moyens des statuts de non salariés baissent. Autrefois, les statuts non salariés, c'était que les patrons, donc c'était plutôt élevé, ces rentrées d'argent pour les statuts non salariés. Ce que montre aussi l'étude, c'est qu'il y a une partie de ces statuts non salariés, revenus non salariés, qui sont faits par des gens qui sont salariés ou qui ont une pension. Donc on voit apparaître des retraités qui sont aussi auto-entrepreneurs pour gagner un peu plus d'argent parce que leur retraite est au faible. On voit aussi des gens qui ont un premier métier, comme dans les pays anglo-saxons, et puis qui font de l'auto-entrepreneuriat pour monter un peu leur salaire parce que leur salaire est trop faible. Donc on a ça qui est montré dans cette étude, on est en 2017, c'était il y a 3 ans, et depuis ça a progressé, mais on n'a pas encore les chiffres officiels. Donc voilà cette étude, ce qu'elle montre, c'est finalement le salariat, qui n'est pas le truc idéal, c'est quand même le moyen d'avoir le plus de protection possible en tant que travailleur et travailleuse, et d'avoir la moindre disparité de salaire. Et dès qu'on sort de ces zones-là, et les différents gouvernements, on essaye en permanence de nous faire sortir du statut de salariat, ou de salariés, comme ça a été le cas dans l'info d'avant sur Nose, mais la création du statut d'auto-entrepreneur, c'était bien dans ce but-là. Voilà, il y a toute une série de politiques pour essayer de rendre tout le monde en travailleur indépendant.
Alors, je ne sais pas si je vais arriver à lire l'intégralité de mon papier. Je voudrais vous lire ce texte écrit par Framasoft que vous allez pouvoir retrouver sur framablog.org. J'y vais, je me lance parce que c'est un peu long, qu'il me reste peu de temps. Ceci est une proute révolution. Plus qu'un service, Framasoft lance aujourd'hui un mouvement, un art de vivre, un programme politique qui se résume en un mot, proute. Alors ça y est, Framasoft a prouter un câble ? Oui. Il faut dire qu'entre un reconfinement mi-figue, mi-molette, dont les règles oscillent entre Camoulox et Chante-Sloubli, des drames affreux récupérés de manière cynique et morbide par des obsédés du solutionnisme compulsif, la théâtralisation des jeux électoraux dont les conséquences risquent de n'amuser personne, comment garder l'esprit sain ? La solution est apparue au petit Pierre-Yves, 42 ans, alors que l'application Twitter l'entraînait dans un scroll infini. Les tweets anxiogènes défilaient sous ses yeux jusqu'à ce que... prout. J'ai alors un peu craqué nerveusement, témoigne-t-il. J'ai trouvé ça tellement génial que les sites, la RTBF, l'équivalent belge de France Télévisions, se retrouvent avec des dizaines de milliers de pages terminant par prout. Justice nulle part ? Prout partout. On pourrait vous pondre un essai long, intelligent et académique sur les vertus du prout face au capitalisme de surveillance. Attention, ceci est une menace. Ne nous poussez pas où on l'écrit. Hein. Nous y évoquerions à coup sûr la loi de Brandolini qui explique qu'il est toujours moins fatigant de dire une connerie que de démentir la connerie qui vient d'être dit. Vous aussi, vous trouvez que c'est usant de répondre à une personne qui dénie le réchauffement climatique, dit que la Terre est plate et que toutes les opinions, même les nazis, se valent ? Prout. Notre éloge du prout mentionnerait forcément la fenêtre d'Overton. Lorsque des partis, médias, groupes, etc. laissent certains membres dire des énormités choquantes, c'est pour que leurs idées nauséabondes puent un peu moins en comparaison. Des politiques se lancent dans un nouveau concours l'épine des idées extrêmes, prout, prout et reprout. Vulgaire le prout ? Que nenni, c'est même tout un art. Le prout est imparable car il lâche une caisse d'irrévérence pour révéler l'absurdité de celles et ceux qui se prennent un poil trop au sérieux. Le prout est subversif, il souffle un vent de « je te pète à la gueule ». Par sa nature même, le prout est insaisissable. Son parfum vengeur vient et s'en va sans laisser de traces. Le prout n'est-il pas nihiliste, dépolitisant ou aquaboniste ? Non. Sa matière, si tant est qu'on puisse parler de matière, est tellement éthérée qu'elle ne porte pas d'autre poids que celui d'affirmer la fastuité de celui qui la génère. On peut même compléter en paraphrasant Victor Hugo dans un de ses beaux discours, le prout, comme épiphomène, appartient à son auteur, mais comme acte, il appartient, le mot n'est pas trop vaste, au genre humain. Enfin, le prout est incensurable. Prout n'est pas une insulte, c'est une fonction naturelle. Prout. Du prout comme arme d'autodéfense sociale. C'est une phrase connue sur Internet. Argumenter avec des trolls, c'est comme jouer aux échecs contre un pigeon. Peu importe votre niveau, le pigeon va juste renverser toutes les pièces, chier sur le plateau et se pavaner fièrement comme s'il avait gagné. Le meilleur moyen de s'en sortir, c'est de s'écrier « Ah, je te vois, tu es un pigeon !» Et les pigeons ne jouent pas aux échecs, donc je ne joue pas avec toi. Mais dans notre expérience, un tel recul est rare. Et s'il advient, le pigeon vous entraîne dans un nouveau débat d'un « mais pourquoi tu me traites de troll ?» Donc, prout. Le prout est un moyen de faire tomber les masques, de s'écrier ce « je te vois » au pigeon qui voulait nous mettre en échec. Notre paysage médiatique, qui inclut les médias sociaux, est rempli de postures d'autorité ballonnées, de rhétoriques foireuses, de techniques de manipulation nauséabondes et de vente de désinformation. Celles et ceux qui empêtent d'avoir tout le temps un avis. On vous voit. Prout. Le monde n'a jamais eu autant besoin de prout. Parce que, en fait, on n'a aucune place dans le débat en tant qu'individu. Parce que les médias sociaux sont des places où tout le monde crie et personne n'écoute. Parce que, pire encore, à gueuler et à voir que rien ne bouge alors qu'on est des milliers, millions à être en désaccord, ne fait qu'exacerber la haine de l'autre, de celui, celle qui n'entend pas. Mieux vaut prouter. Framaprout, des outils numériques pour prouter en liberté. Nous, quand on commence à péter du casque, on le fait bien. Sur framaprout.org, vous avez à votre disposition Proutify, l'extension navigateur qui va vous prouter le web. Proutify est une extension pour votre navigateur que vous retrouverez. L'installation est facilitée sur Firefox, mais elle reste manuelle pour Chrome. Parce que plutôt prouter que de rester manuel que de créer un compte Google. Une fois installé, Proutify remplacera toute une série de noms et d'expressions par leur version proutesque, parce que la vie est absurde. Les proutes de la team même. La team même a encore frappé ou prouté. À vrai dire, la team est au bord du surmenage. Ses membres ont plus prouté qu'un ariégeois venant de remporter un concours de dégustation de moonje de tabac. Nous ne pouvions pas tous les utiliser pour illustrer cet article, donc on vous a préparé une galerie de mènes gastriques à télécharger et à prouter partout autour de vous. Le proutomètre pour compter les proutes. Une personne vient de lâcher une grosse quête et vous voulez identifier en quoi son prout pue. Il y a là un framachin pour ça, un bingo du prout inspiré de notre bingo du troll. Sur le proutomètre, vous pouvez cocher les cases qui correspondent à ses flatulences et donner lui son score en partageant avec lui le lien en bas de ce bingo du prout. Le bon vieux prout artisanal, il y a des moments où on n'en peut plus de répondre, où on en est fatigué de se prendre l'écume des jours dans les dents, rassasié par chaque nouvelle vague d'indignation. Si ça vous arrive, répondez simplement prout. Le bon vieux prout artisanal, il n'y a qu'à de ça de vrai. C'est 5 touches sur votre clavier, 6 si vous en faites un hashtag. Allez-y, lâchez-vous, vous verrez, ça soulage. Voulez-vous prout avec nous ce soir? Nous serrons les fesses à l'idée de votre réponse. Du fond de l'internet, la République se fera-t-elle un chemin vers la sortie du tunnel? Notre argument, vous l'aurez senti, c'est que ça sent le gaz et qu'on a besoin de se déballonner un peu. Une action burlesco-dadaïste pour mettre le web en odorama, vous le sentez comment?
Eh ben, tu vois, t'as eu le temps de tout lire avant la fin de ce Canu Info.
Voilà, je trouvais que ce papier résume assez bien ce qu'on le vit tous et toutes en ce moment. En tout cas, j'aurais pu vous parler plein de choses, mais je trouvais que...
Les geeks qui se mettent au dadaïsme, ça pète quand même.
Ouais. Voilà, donc moi je vous encourage à lancer une grande campagne de prout autour de vous et que sur les réseaux sociaux, dès qu'un ou une abruti dit un truc complètement débile, arrêtez d'argumenter parce qu'ils sont et elles sont de toute façon avec du caca... Ouais. Dans les oreilles et dans les yeux, mettez du prout.
Et les pigeons ne jouent pas aux échecs.
Et puis mettez du prout dans votre vie, ça fait toujours du bien en plus un petit peu. Allez.
20h pile à la pendule la plus rebelle des radios. On se retrouve la semaine prochaine.
Ciao.
Bye bye.